Il m'a libéré. Amen. Je suis enfant de Dieu. Combien de vous avez vos Bibles, s'il vous plaît? Montrez-les. Montrez-les. Hein? Rappelez-vous, avant, vous ne pouvez pas ouvrir les téléphones hein, pour chercher les versets. Apparemment, donc là, maintenant, ils disent que c'est possible. Mais c'est important d'amener la Bible. C'est important d'ouvrir la parole. Vous savez, donc, en Chine, dans les années 1917, le communisme est venu. Mais avant que le communisme vienne, on avait déjà commencé à faire comprendre donc à l'Église qu'il dérangeait. Et donc les Bibles commençaient à disparaître. Et quand le communisme est venu, l'Église est devenue souterraine. L'Église donc a donc s'est mis en clandestinité. Si vous lisez donc l'histoire de l'Église moderne, vous verrez, vous lirez donc ces faits. Et il y avait des personnes qui avaient réussi à cacher une Bible. Une Bible. Vous savez, il y a des millions de chrétiens en Chine aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a une grande persécution en Chine. Il ne faut pas penser que les choses sont faciles. Et donc cette Bible, ils ont commencé à la déchirer. Ils ont trouvé une Bible, parce qu'on avait brûlé toutes les Bibles, on avait enlevé toutes les Bibles, on avait interdit les Bibles. Et ils ont commencé à déchirer les pages. Et ils ont envoyé une page à une église, une autre page à une autre église, une autre page à une autre église. Et selon la page qu'ils recevaient, il fallait faire des messages. Il fallait prêcher là-dessus. Imaginez que quelqu'un ait donné un nombre quand il parle que des noms. Mais même les noms sont inspirés du Saint-Esprit. Hein, il faut trouver. Pourquoi on donnerait un message là-dessus? Mais ils ont trouvé donc, une fois que l'Église a pu ressortir à nouveau et rejaillir, les témoignages sont extraordinaires. Des gens qui faisaient tout pour échanger la page suivante d'Ézéchiel, ou la page suivante des Psaumes, ou la page suivante de Luc, de Matthieu. Ils étaient désespérés parce qu'ils voulaient la parole de Dieu. Hein? Donc, vous savez que dans notre Église, on encourage beaucoup la mémorisation. On a commencé en janvier avec le Psaume 119, je ne sais pas exactement où nous en sommes, mais on va reprendre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va reprendre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est dans notre cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si on nous enlevait les Bibles, et si on nous brûlait les Bibles, qu'est-ce qu'on deviendrait? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Est-ce qu'on serait, oui, mais on ne sait pas comment, oui, mais je ne me rappelle pas du message que le frère a prêché il y a 3 semaines, la dernière fois que j'avais ouvert ma Bible, et tout d'un coup on me dit, vous n'avez plus le droit d'avoir des Bibles. Hein? Donc quand même, nous sommes vraiment dans une période dans laquelle il faut considérer ce message que nous avons à notre portée. Et j'aimerais aujourd'hui parler de la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai lu au départ, quand on était 8 ou 7, on a lu donc dans les évangiles, donc une partie de le récit de la croix de Jésus-Christ. C'est important de le faire. Mais j'aimerais qu'on ouvre la Bible à Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Où trouves-tu ta gloire aujourd'hui? De quoi te vantes-tu aujourd'hui? En Galates, vous savez, c'est la loi. Ils veulent que tous ceux qui se convertissent se soumettent à tous les critères que la loi exigeait pour dire « Je crois en Dieu, je suis croyant, je fais partie donc, du temple, etc. » Et donc, il y a plusieurs moments, comme vous lisez dans les 6 chapitres de Galates, « Ne rendez pas la mort de Christ vain à votre égard. Attention, ne mettez pas l'accent sur la loi à tel point que vous rendez néant le sacrifice de Jésus. » Et en Galates chapitre 6, verset 11, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. C'est-à-dire qu'un des signes de la conversion, donc, Pour eux, c'était qu'il fallait que les hommes se fassent circoncire, parce que les hommes juifs étaient circoncis. Donc, ici, ils voulaient que tout croyant, tout homme croyant, se fasse circoncire, parce que s'il se faisait circoncire, donc, il ne serait pas persécuté pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour se dire, voilà, on a donc des non-juifs qui sont venus donc dans nos réunions, etc. Et ils ont obéi jusqu'au bout, ils se sont fait circoncis. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment des disciples de Jésus. Les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Colossiens chapitre 2, verset 19 nous dit, au verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est de cela qu'il parlait en Galates chapitre 6. Il disait, ils veulent être satisfaits, se glorifier dans votre chair, parce que vous avez accepté leurs préceptes. Mais si vous êtes attaché à la tête, alors ça c'est autre chose. Pour ce qui me concerne, verset 14, Galates chapitre 6, disait l'apôtre Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc ce n'était pas la circoncision ou le manque de circoncision. Ce qui comptait le plus, c'était quelle était la relation avec la croix de Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. En Jérémie chapitre 9 et verset 23, Jérémie chapitre 9 et verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En quoi trouvons-nous notre gloire aujourd'hui? De quoi nous nous glorifions? Nous nous glorifions de nos œuvres? Nous nous glorifions du fait que nous, on a compris comme les chrétiens en Thessalonique, là où Paul disait, on n'a même pas besoin de vous en parler parce que vous avez tout compris. Est-ce qu'on se glorifie de connaître les choses? Est-ce qu'on se glorifie de connaître les versets de la Bible par cœur? De quoi on se glorifie? Ici, il disait, ne vous glorifiez pas de votre sagesse, de votre force, de votre richesse. Glorifiez-vous dans le fait que vous me connaissez. Dans le fait que vous me connaissez. Parce que rappelez-vous en Matthieu chapitre 7 et verset 21, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ceux qui connaissent Dieu. Car ils vont paraître, ils vont se dire, mais on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, il va leur dire, je ne vous connais pas. Réjouissez-vous de me connaître. Glorifiez-vous de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il y a un chant en anglais qui a marqué donc mes années. J'aimerais donc chanter tout simplement le chœur, mais après je vais vous donner la traduction. I will glory in the cross, in the cross, lest his suffering all be in vain. I will weep no more, For the cross that he bore, I will glory in the cross. Je me glorifierai de la croix. Je ne me vante pas des œuvres ou des bonnes actions, car je n'ai rien fait pour mériter sa grâce. Toute gloire et louange reviennent à celui qui était si prêt à mourir à ma place. Je me glorifierai de la croix, pourvu que sa souffrance n'ait pas été en vain. Je ne pleurerai plus pour la croix qu'il a portée. Je me glorifierai de sa croix. Mes trophées, mes couronnes, ma robe tachée de péché étaient tout ce que je pouvais lui offrir. N'est-on pas digne de manger de la table de vie jusqu'à ce que son cœur, son amour couvre toutes mes fautes? Alors, je choisis de me glorifier de la croix, pourvu que sa souffrance n'ait pas été en vain. Je ne pleurerai plus pour la croix qu'il a portée. Je me glorifierai de sa croix. J'aime beaucoup ce passage en Galates chapitre 6. Et j'aimerais vous le lire dans plusieurs versions. Vous savez, il y a plusieurs versions de la Bible. Et il y a des phrases donc, qui parfois nous font comprendre donc, comment avoir une meilleure compréhension. Alors, j'aimerais vous lire donc, quelques phrases. Donc, en Louis 5:19, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix, au Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La colombe, quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Je ne veux pas me glorifier de la circoncision, je ne veux pas me glorifier des œuvres, je ne veux pas me glorifier parce que je suis un bon chrétien. Je choisis de me glorifier de la croix. Nouvelle Bible seconde, quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seconde nouvelle édition de Genève, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix. Seconde 21, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la Bible du Semeur, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi j'étais pour ce monde. Bible de Jérusalem, pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Le monde m'est crucifié, mais je suis crucifié aussi pour le monde. Je suis mort au monde. Les frères et sœurs en Algérie, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont compris encore qu'est-ce que c'est de souffrir pour la cause du message de la croix. La Bible a noté, mais pour moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix, le Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié à mon égard, et moi je suis crucifié à l'égard du monde. Darby, mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. David Martin, mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie sinon en la croix, notre Seigneur Jésus-Christ. Osterwald, quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix, notre Seigneur Jésus. Pour moi, Dieu me garde de me glorifier si ce n'est dans la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et en dessous de qui, mais pour moi, je ne suis fier de rien sinon de la croix de notre Messie, sur laquelle l'univers a été crucifié pour moi, et moi pour l'univers. C'est intéressant de voir les différentes versions. Je l'ai lu sur Google, hein. Vous pouvez aller sur Google, vous cherchez n'importe quel verset, demandez toutes les versions, et vous allez vraiment voir la richesse de ce qu'on peut trouver dans les différentes expressions. Mais l'idée est que nous sommes identifiés à la croix. Qu'est-ce qu'il dit en Galates chapitre 2 et verset 20 ? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai été crucifié avec Christ? Il y a un théologien qui l'a expliqué de cette manière. Christ était la vie. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Lui qui n'avait jamais commis un péché, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, il est devenu péché pour nous. Comment est-il devenu péché pour nous? Quand on a été crucifié avec Christ. Ce n'est pas dans une croix à côté. Ce n'est pas dans une croix derrière. Notre corps, notre chair, a été crucifié sur lui. Et tout ce qu'il y avait de mauvais, toutes les pensées de notre cœur, tout ce qu'il y avait d'impur en nous, a été transféré sur lui. Vous comprenez? Ça a été transféré sur lui. J'ai été crucifié avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me donne la force de vivre une vie dans laquelle celui qui est né de l'Esprit de Dieu ne pratique plus le péché. Jésus est venu pour ôter les œuvres de la chair, pour ôter le péché de ce monde. Quand j'étais crucifié avec lui, tout ce qu'il y avait en moi de mauvais, il a pris sur lui. Le châtiment de ma paix est tombé sur lui. Il a pris tout de moi. Il a pris sur lui, la Bible dit. Il est devenu péché. Pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce que ça suscite dans ton cœur. De penser que celui qui était innocent, en qui coulait un sang sans tache, sans impureté, il a accepté que le Père lui tourne le dos, car il va crier « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il est devenu péché à notre place. Comment puis-je, comme il le dit en Romains chapitre 6, continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous continuer à vivre dans le péché? Comment allons-nous continuer à nous vanter des choses autres que la croix de Jésus-Christ? Comment allons-nous vivre pour autre chose qui n'implique pas la croix de Jésus-Christ? Récemment, j'étais au Mexique et j'étais donc à l'école biblique lors du décès de mon beau-frère. Et encore, ma sœur m'a dit, Marc, nous avons des étudiants ici qui savent que quand ils sortiront de l'école en juin, ils vont se rendre dans des endroits dangereux et ils sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à perdre leur vie pour la cause de Christ. Nous sommes conscients. Elle disait en pleurs, et moi aussi, quand j'ai commencé à enseigner, je ne pouvais que pleurer. Je me trouvais face donc à des gens qui disaient, comme Paul, je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je puisse être considéré. Voilà, cet ouvrier fidèle devant Dieu. Alors, eux, ils sont prêts, ils se préparent à l'école biblique. Pas pour être des pasteurs des églises de 5 et 10 000. Ils se préparent pour aller là où les gens se trouvent dans la détresse, dans l'amertume, dans la drogue, avec les cartels, etc. Et ils sont prêts à aller, ils sont prêts à aller prêcher. Je vous ai parlé donc l'année dernière d'une sœur en Christ que je connais depuis mon enfance. Elle est un petit peu plus âgée que moi. Et donc, elle est vraiment en plein centre où sont les cartels, dans la partie nord du pays. Et un jour, donc, elle reçoit une lettre qui dit, si tu ne pars pas d'ici, tu vas être décapité. Donc, il faut que tu pars d'ici, que tu fermes l'église. Et elle voit sur la signature le nom de deux de ses anciens étudiants d'école de dimanche. Elle l'a depuis une vingtaine d'années, avant que les choses empirent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir les deux membre du cartel. Ça fait venir devant elle. Elle a dit, qu'est-ce que c'est cette lettre que vous me donnez? Mais elle vous l'a signée en plus. Et vous savez que je vous connais. Vous savez que je vous ai instruit dans les voies de Dieu. Je vous ai enseigné la croix. Je vous ai enseigné Christ et lui crucifié. Et les deux se sont mis à genoux. Ils ont demandé pardon. Ils lui ont dit, ah non, 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 toi tu as la liberté d'être ouvert tous les jours que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. On ne va pas t'embêter. Elle a osé se dire, mais attendez, qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce que je peux perdre? Alors, l'identité avec Christ, je suis crucifié avec Christ. Si je suis crucifié avec Christ, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand je suis crucifié, qui m'a descendu de la croix? Personne. Je suis crucifié avec lui. La vie que je mène, c'est la vie de Christ en moi. Je suis crucifié. ma vie, et il y a donc un théologien français mort en 1661 qui disait ceci. Il disait, nous sommes nés crucifiés. Du moment que nous nous donnons à Christ, du moment que nous sommes nés de nouveau, disait ce prédicateur, Lacordaire, l'Église est née crucifiée. Il voulait dire que tous les membres du corps de Christ attachés à la tête de Jésus sont morts en et avec le dernier Adam, lorsqu'il a offert sa vie sur la croix du Calvaire. Bien sûr, on vit maintenant par la, dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour moi. La Bible dit en Romains chapitre 8, nous sommes tous comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Nous n'avons pas de droit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes nés crucifiés. En étant nés crucifiés, on se rend compte que tout ce qui passe par notre bouche, tout ce qui filtre par nos pensées, tout ce qui filtre par nos actions, est filtré par la croix. Par la croix. Pourquoi si important de nous glorifier dans la croix? Parce qu'il y a des personnes qui se glorifient en toutes sortes de choses. Regardez avec moi en le psaume 56, verset 4. Les gens vont chercher à se glorifier, les gens vont chercher à trouver gloire. Le psaume 56, c'est verset 4, nous dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Rien. Donc là, il se glorifie en Dieu. Verset 9, tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Rien. La Bible dit que il ne faut pas chercher à avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais il faut se laisser attirer par ce qui est humble. Romains chapitre 12. L'homme, il cherche un autre chemin. Regardez le psaume 10. Le psaume 10 et verset 3. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous les adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Mais sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sur sa langue de la malice et de l'iniquité. Le méchant dit dans son arrogance, il se glorifie de sa convoitise. Le psaume 49. Le méchant, l'incrédule, celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Au verset 7, ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et il n'aura jamais lieu. Personne ne peut se sauver, la Bible dit. On ne peut pas payer le prix du rachat. On ne peut pas se racheter soi-même. Donc, en quoi est-ce qu'on se glorifie? Le psaume 94. Et verset 3, le psaume 94 et verset 3. Tu sais à quand les méchants, ô Éternel? Tu sais à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Nous avons un choix. De quoi allons-nous nous glorifier? Matthieu 16, verset 24, même Jésus va dire à quoi ça sert de gagner le monde entier si l'homme perd son âme. La personne peut se vanter de tellement de choses. Mais en Matthieu 16, verset 24, nous lisons, à Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je me glorifie de la croix de Christ. Je choisis de me glorifier en lui, de trouver ma gloire en lui. Qu'est-ce que j'ai par la croix? L'identité. Mon identité est dans la croix. Mon identité, l'identité que j'ai avec Jésus. Et aujourd'hui, je suis héritier, co-héritier avec lui, avec mon grand frère, Jésus, avec mon Père, avec le Saint-Esprit. Mon identité est en lui. Par la croix, j'ai la victoire sur le péché. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que Jésus, son sacrifice sur la croix, a été suffisant pour effacer la racine de péché en nous? Parce que si nous étions enracinés avec un arbre qui portait des mauvais fruits, quand on vient à Christ, selon Jean chapitre 15, on va être greffé au vrai cèpe. Donc il faut couper l'arbre qui portait des mauvais fruits, couper à la racine, et le greffer immédiatement sur le vrai cèpe. Et quand on est greffé sur le vrai cèpe, la Bible dit, on va porter du fruit en mesure de la sève qui vient du cèpe dans nos vies. Nous ne pouvons pas être greffés à Christ si nous sommes toujours attachés au monde. C'est ce que la Bible dit en 1 Jean chapitre 2, « N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Je vous assure, mes frères et sœurs, à chacun de nous, de comprendre combien du monde y a-t-il en nous encore. Combien du monde y a-t-il encore en nous? Devons-nous prendre encore conscience que nous sommes crucifiés avec Christ? Et si nous sommes crucifiés avec Christ, le monde nous est mort, et nous sommes morts pour le monde. J'ai été crucifié avec lui, je suis crucifié pour le monde, et le monde m'est crucifié aussi. C'est à chacun de nous de savoir ce que nous faisons face à la croix. La victoire sur le péché et la puissance pour le service. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est le service. Pour annoncer une année de grâce. Ça, c'est le service. Pour libérer les captifs. Ça, c'est le service. Pour libérer les prisonniers et leur annoncer une année de liberté. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est le service. La victoire sur le péché, afin de pouvoir servir Dieu, servir l'Église, servir les autres. Paul disait dans la lecture que j'ai faite tout à l'heure, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Et nous nous offrons en tant que vos serviteurs à cause de Christ. Qu'avons-nous par la croix? Une vie de consécration. Une vie de consécration. Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2, l'apôtre Paul, il va insister auprès des Romains. Il va leur dire, et la manière comme il l'exprime, lisez-le, il dit, je vous exhorte, donc, frère, par les compassions de Dieu. Rendez à l'agneau la récompense dont il est digne. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors notre moi, notre ego, il prend un coup. Il meurt. On se laisse attirer par ceux qui est humble. On ne cherche pas à avoir une trop haute opinion de nous. On n'est pas obligé d'avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce que pour nous, vivre c'est Christ. Pour nous, je ne veux rien savoir d'autre que Christ, celui crucifié. Mais marche, ça veut dire qu'on ne va pas être avec les pieds sur terre. Donc on va être un petit peu des êtres célestes. On a la tête dans le ciel et on n'a pas les pieds sur terre. Mais oui, on a les pieds sur terre. Mais oui, on vit une vie pratique. Mais c'est dans cette vie pratique qu'on ne se laisse pas transformer. On ne se laisse pas transformer par le renouvellement de notre intelligence, par la parole de Dieu. Et quoi faire avec les deux natures? C'est la croix qui va décider les deux natures. Vous vous rappelez en Romains chapitre 7, il y a cette dichotomie parce que l'apôtre dit au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Et ce qui est charnel sans spirituel est vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce que la loi me montre, la loi est un pédagogue pour me montrer les choses que je ne dois pas faire et les conséquences de mes actions. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc il y a ces deux natures. C'est pour ça que quand on est baptisé, allons-nous continuer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde envers nous, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous continuer à vivre dans le péché? Car nous sommes baptisés avec Christ, nous sommes ensevelis avec lui. Notre vie a un changement radical. Alors il continue à dire, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est des combats que nous avons tous. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur dit oui, cherche Dieu. L'homme intérieur dit oui, cherche la présence de Dieu. L'homme spirituel qui est renouvelé chaque jour veut de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il me faut la croix pour comprendre comment affaiblir le vieil homme. Comment affaiblir l'homme charnel. Car l'homme charnel revient au galop. L'homme charnel revient au galop. Et le diable vient te dire, oui, mais tu te rappelles, avant que tu sois disciple de Jésus, donc les plaisirs, les joies que tu vivais quand tu étais dans le monde, oui, il y avait la condamnation, la culpabilité et tout, mais rappelle-toi, et on se laisse entraîner par les paroles, les raisonnements que Satan vient essayer de nous nourrir. C'est à nous de dire, ah non, je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. La croix est la volonté de Dieu. Jésus a dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. À quel moment avons-nous vécu ce monde dans lequel nous disons, pas ma volonté, mais la tienne. Et pourtant pour Jésus, en disant pas ma volonté, c'était sa mort. C'était le fait qu'il allait devenir péché pour nous. C'était le fait que le Père n'allait pas le laisser échapper. Car la Bible dit en Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi est-ce que les gens sont contre la croix? Pourquoi est-ce que les gens sont contre ce message de la croix? C'est une folie pour ceux qui périssent selon 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 18. Mais pour nous qui sommes exercés, c'est la sagesse de Dieu pour le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile, Romains chapitre 1 verset 16. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les gens sont contre la croix. Tous les martyrs, c'est par rapport à la croix. En Algérie, dans les années 60, il y a eu des pasteurs qui ont été mis à mort. Il y a eu des grandes, grandes persécutions dans les années 60. Ali Arab, que vous connaissez, de Roubaix, quelques-uns, il a vécu ce moment. Il a perdu des amis qui ont été mis à mort quand il prêchait, etc. Mais merci Seigneur, aujourd'hui, il y a 600 000 chrétiens évangéliques en Algérie. Ça, c'est extraordinaire. Et peut-être, il y en a beaucoup plus. Parce que c'est un recensement qui s'est fait. Mais certainement, il y a plein d'autres qui sont en train de lire la Bible en cachette, qui sont en train de se poser des questions en disant, mais alors ces églises ferment, et donc les personnes sont envoyées en prison, et les pasteurs sont frappés, etc. Mais on voit que l'église continue, on voit que l'église, rien ne peut prévaloir contre l'église. Alléluia. Rien ne peut prévaloir contre l'église. Jésus l'a même dit. La croix et la discipline. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Mais nous sommes des enfants de discipline, disciplinés devant Dieu. Disciplinés pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est toujours la croix. Regardez en Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Car vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme un des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nous participons à sa sainteté par la croix, en fixant nos regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi. La discipline vient par la croix. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblés et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. La croix. Je cherche à me glorifier dans la croix de Jésus-Christ. Je cherche à m'identifier avec la croix. Quand je suis face à Satan, quand l'ennemi vient me tenter, quand l'ennemi vient m'attaquer, c'est la croix que je mets en position. Pourquoi? Parce que je lui dis en Colossiens chapitre 2, verset 15, que Dieu a rendu en spectacle public le diable et tous ses démons, quand? À la croix. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Et oui, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. On n'avait pas d'espoir. On était complètement détruits. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Il y avait des actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Mais il les a détruits en les clouant à la croix. Il les a pris sur lui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand le diable vient te tenter, quand il vient te titiller, quand il vient t'attaquer, quel est ton recours? Quelle est ta protection? Les armes qu'on trouve en Éphésiens 6. As-tu mis tes armes aujourd'hui? As-tu pris chaque élément sur toi, grâce à la croix, grâce au fait que Jésus est ta justice, grâce au fait que tu es appelé à marcher dans la sanctification entière devant Dieu? Éphésiens 6 et 10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Le diable essayera tout pour te distraire. Il essayera tout pour t'avoir. Il essayera tout pour essayer de te maintenir donc prisonnier. Mais il dit ici, tu peux tenir ferme contre les ruses du diable. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que tu as surmonté? Tu peux tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse et la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par-dessus toutes sortes de prières et de supplications. Vous ne croyez pas que nos frères et sœurs en Algérie sont en train d'être attaqués par le diable. Ils disent, mais où est ton Dieu? Et alors, où est l'amour de Dieu? Où est sa protection? Où est l'ange qui devait camper autour de toi? Et ton église se ferme, et le pasteur, il est frappé, et les personnes sont en prison, et les personnes sont à l'hôpital. Et vous savez, le diable vient, et où? Et toi, tu dis, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, le message de la croix, c'est un message de souffrance. La Bible dit que les gens vont nous haïr. Les gens vont nous haïr. Jésus préparait déjà les disciples en Matthieu chapitre 5. Et il disait au verset 12, après les béatitudes, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir dans notre cœur. Mais le verset 9 nous dit, Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Gardons notre saveur. Gardons notre saveur, le sel de la terre. Mais vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est lié à la croix. Je me glorifierai de la croix de Jésus. Nous sommes un peuple de la croix. Vous savez, il y a le peuple du croissant. Hein? L'islam. Le peuple du croissant. Nous sommes le peuple de la croix. Ça, la porte ouverte nous a toujours appelé. L'église persécutée est le peuple de la croix. Alors, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Parce qu'il a sa méthode d'agir en nous. Il nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Nous serons parfaits lorsque nous le verrons tel qu'il est, la Bible dit en 1 Jean chapitre 3. Mais jusqu'alors, vivons par la foi. Jusqu'alors, ne nous laissons pas distraire de la récompense. Nous sommes un peuple de la croix. Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas en bien, ce n'est pas en argent, ce n'est pas ça. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut qu'on ait la foi, qu'on croit, et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais alors, soumettons-nous à la méthode de la croix. Nous n'avons plus a offrir notre vie jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait. Il se peut, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur vie. Des fois, il y a des vidéos qui paraissent, bon, je ne sais pas s'ils sont vrais ou non, et ils disent, voilà, c'est une famille qui est en train d'être brûlée, je ne sais pas si c'est du fake news et tout. Bon, il faut faire très attention par rapport à ce qu'on voit. Il y a quelques temps, il parlait de 230 missionnaires, je ne sais pas combien de missionnaires, ou 22 missionnaires qui devaient être décapités et tout. Et ça existe depuis des années. Hein. Donc si vous l'avez sur votre réseau social, ce n'est pas des choses actuelles. Et bien sûr, ça nous fait penser que ces choses peut-être, voilà, ont existé dans le passé. De toute façon, on sait qu'en Afrique, beaucoup de personnes donner leur vie pour le message de l'Évangile. En Asie, en Moyen-Orient et partout, je me glorifierai dans la croix de Jésus-Christ. Je ne veux pas me vanter de quoi que ce soit d'autre que de la croix. Et si je suis un ouvrier fidèle, je suis simplement un ouvrier fidèle. Si j'obéis, je suis un fils qui obéit. Mais je ne vais pas trouver aucune gloire dans cela. Je vais trouver ma gloire. Je vais glorifier dans la croix de Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Car c'est le fruit que nous portons. C'est par rapport à la croix. C'est parce que nous vivons. C'est toi qui vis en nous. C'est le fruit que nous portons. Soyez-nous sur à comprendre le prix que tu as payé. Jusqu'où tu nous as aimés. Tu nous as aimés avant tout. Tu as tout donné pour nous. Tu as pris notre place sur la croix. Tu es venu pour nous dire que le prix avait déjà été payé et que nous pouvons être enfants des dieux. Je demande, Seigneur, vraiment que tu suscites dans nos cœurs une immense gratitude face à la croix. Une immense gratitude, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas être des chrétiens médiocres. Nous ne voulons pas être des disciples médiocres. On ne peut pas, Seigneur. Quand nous pensons à nos frères et sœurs en Algérie, ces dernières semaines, c'est de parler de la médiocrité qui les a fait rester, sachant qu'il y avait la menace. Et oui, ils ont protesté. Et oui, ils ne voulaient pas perdre leur local. Et oui, ils ne voulaient pas perdre leur contexte de sécurité. Et peut-être, on voit dans des photos, ils se laissent un petit peu entraîner, traîner un petit peu. Seigneur, mais ils sont prêts, Seigneur, à aller jusqu'au bout. Te prions, Seigneur, que nous soyons aussi prêts à aller jusqu'au bout. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour nous sentir bien. Jésus ne se sentait pas bien sur la croix. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour être épanoui. Et se dire, voilà, je suis épanoui. Jésus n'était pas épanoui dans son corps sur la croix. Fais-nous comprendre, Seigneur, que la rédemption est gratuite. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Le pardon de Dieu est gratuit. Pas bon marché, mais gratuit. Mais Seigneur, tu nous donnes à nous le privilège et la gloire de pouvoir proclamer ce message de rédemption, ce message de vie. Je te demande, Seigneur, que tu fasses de chacun de nous des messagers de ce message de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est la sagesse de Dieu. Pour nous, c'est la puissance de Dieu. Et nous allons continuer à prêcher cette même parole. Nous n'altérons en rien ta parole. Mais nous serons, Seigneur, fidèles jusqu'à te voir face à face. Car le juste vivra par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Fermons les yeux un instant, s'il vous plaît. Restons dans une attitude de prière. Ne regardez pas, ne vous levez pas. Quelques instants. Prêchons sur la croix. Prêchons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Prêchons sur le fait qu'une fois qu'on est crucifié avec lui, on vit les bénédictions qui sont attachées à la croix. Et on peut vivre pleinement tout ce que le Seigneur a pourvu pour nous. Y aurait-il quelqu'un ce matin qui dirait, Marc, moi j'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Je n'ai jamais reçu Christ dans mon cœur. Je n'ai jamais pris conscience de ce que cela voulait dire, de croire en lui. Pas seulement croire qu'il a fait, mais de croire en lui et de croire que c'était pour moi qu'il s'est donné. Y a-t-il quelqu'un qui dirait, prie pour moi. J'ai besoin de Jésus Sauveur dans mon cœur ce matin. J'ai besoin de lui dire que je le connais. Je suis pécheur et qu'il est mon seul sauveur. Il est ma seule chance. Il est mon seul issue. S'il y a quelqu'un qui dirait, prie pour moi. Je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux vivre pleinement le privilège d'être enfant de Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Lève la main là où vous êtes. Lève ta main là où tu es. S'il y a quelqu'un qui dit, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Merci Seigneur, parce que chacun de nous, nous avons eu, Seigneur, ce moment précis dans lequel nous t'avons reçu, nous t'avons accepté. Et tu es venu en nous, Seigneur. Nous avons vécu cette nouvelle naissance. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, ce matin, chacun, à revivre la croix. Aller chercher les passages bibliques et lire sur la croix. Afin que ta croix ne soit pas vain à notre sujet. Et surtout ne soit pas vain au sujet des gens qui nous entourent, de nos familles qui ne te connaissent pas. Il faut que la croix, Seigneur, prenne place dans leur cœur et dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.